Bonjour à tous, je m'appelle Estelle Abou et je vous souhaite la bienvenue sur Réel. Avec ce podcast, je donne la parole à des personnalités qui ont un impact positif, réel, sur l'autre, l'économie, l'environnement ou les générations futures. Par leurs actions, leurs entreprises, leurs pensées, leurs œuvres ou leurs visions, ces hommes et ces femmes contribuent d'une manière ou d'une autre au monde de demain et à celui d'aujourd'hui. Si vous aimez le podcast et que vous voulez me soutenir dans ma démarche, la meilleure manière de le faire, c'est de vous abonner, de mettre 5 étoiles à l'épisode, de le commenter ou encore d'en parler autour de vous sur les réseaux sociaux et dans la vie réelle. Alors je vous souhaite une très bonne écoute et on y va. Il est sociologue, écrivain, journaliste, philosophe et conférencier. Traduit dans une vingtaine de langues, ses ouvrages traitent notamment du bonheur, du bien-être, de la spiritualité et de l'histoire des religions. Il est un des intellectuels français qui a le plus vendu de livres en France et j'ai voulu l'interviewer pour clôturer 2020 avec une dose d'espoir et d'optimisme lucide. Avec lui, nous avons parlé de son plus récent ouvrage « D'un monde à l'autre, le temps des consciences » paru chez Fayard et coécrit avec Nicolas Hulot. Mais on a aussi parlé du lien entre écologie et épidémie, de sa merveilleuse série documentaire « Les chemins du sacré » co-réalisé pour Arte, de la stabilité émotionnelle nécessaire pour libérer l'énergie de l'action, de ce que serait l'école si nous mettions demain la méditation et la philosophie au même niveau que les mathématiques, de la gestion de nos émotions pour lutter contre l'obscurantisme et les extrêmes, et de la grande différence entre réussir dans la vie et réussir sa vie. Je profite de cette introduction pour vous souhaiter une belle fin d'année 2020, la plus belle possible, et vous dire à nouveau merci du fond du cœur d'être de plus en plus nombreux à écouter ce podcast. 2021 arrive à grands pas et j'espère de tout cœur qu'elle vous apportera ce que vous désirez et même ce que vous n'osez pas encore désirer. En 2021, je le sais, je le sens, tout est possible. Allez, j'arrête de parler et je laisse place à la sagesse de Frédéric Lenoir.
Frédéric, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation dans mon podcast. Je suis ravie de vous recevoir. Ça fait très longtemps que je souhaitais vous accueillir dans Réel. On vous connaît, le plus grand nombre de gens qui s'intéressent de près ou de loin à la philosophie et au bonheur vous connaissent. Mais c'est vrai que je vais vous demander, malheureusement, encore une fois, de vous présenter, parce que je sais que finalement, les présentations de chacun, de tout un chacun, peuvent varier avec le temps. Donc j'aimerais avoir votre point de vue sur votre présentation, autant personnel que professionnel, si vous distinguez les deux d'ailleurs.
Sur le plan, déjà bonjour Estelle, merci de votre invitation, ça me fait aussi très plaisir. Sur le plan professionnel, je suis ma carte d'identité, enfin je dirais plutôt ma carte de visite, c'est Frédéric Lenoir, philosophe, sociologue et écrivain. Après, je me considère avant tout comme un citoyen du monde et un être humain qui essaye de grandir en humanité.
Après, ma question, à vrai dire, c'était surtout l'ouvrage que vous avez coécrit avec Nicolas Hulot, qui s'appelle « D'un monde à l'autre, le temps des consciences », sauf erreur de ma part, qui est paru en septembre aux éditions Fayard. De ce que j'ai pu, moi, apprécier, c'est un livre d'entretien donc qui a été commencé finalement bien avant la crise du Covid, avec deux regards très différents. Alors, très différents peut-être pas, mais en tout cas, il y a un homme d'action et puis un homme plutôt de réflexion. Enfin, l'homme d'action serait Nicolas Hulot et l'homme de réflexion serait vous. C'est également donc à travers ces entretiens, c'est une sorte de constat sur l'état de la planète, mais surtout une sorte d'enquête, enfin une sorte de d'enquête ou d'investigation sur les causes de l'état dans lequel on se situe aujourd'hui nous tous et qui nous oblige à nous demander comment on appréhende le vivant au sens global, si je ne me trompe pas. Et donc à travers tous ces entretiens, finalement vous abordez plein de problématiques, en tout cas plein de thématiques. Sur l'espoir, les changements qu'on doit tous adopter. Moi, personnellement, j'ai beaucoup apprécié le livre parce que je vous apprécie tous les deux beaucoup, autant Nicolas Hulot que vous. Mais à vrai dire, j'étais un peu étonnée parce que, alors, autant je vous connaissais sur le bonheur, sur des grands thèmes philosophiques, mais sur l'écologie, je vous connaissais moins. En tout cas, je vous découvre à travers cet ouvrage. Je voulais juste, en fait, d'abord que vous me disiez ce que vous avez envie de me dire sur cet ouvrage, mais également un petit peu votre qu'est-ce que ce livre vous a apporté à vous en tant qu'homme finalement impliqué dans l'écologie.
Eh bien, effectivement, les livres qui ont eu le plus de succès que j'ai écrits touchent plutôt à la philosophie, à la spiritualité, à la question de la joie, du bonheur, etc. Mais ça fait très très longtemps que j'écris sur ces, ce que j'appelle les grandes crises du monde. Mon premier, un de mes tout premiers ouvrages, j'avais moins de 30 ans, donc ça fait déjà presque 30 ans que je l'ai écrit, s'appelait « Le temps de la responsabilité ». J'ai écrit en 1990 et c'est un ouvrage qui traitait déjà de toutes ces grandes questions, de la globalisation du monde, des problèmes écologiques, etc. J'ai participé à la création d'une association qui s'appelait Environnement sans frontières à la même époque, donc mon engagement écologique est très ancien. J'ai fait il y a 20 ans un ouvrage avec Hubert Reeves qui s'appelle Mal de terre, et c'était le premier ouvrage où je dialoguais avec Hubert Reeves et il faisait état de ses préoccupations pour l'écologie. Donc voilà, je pourrais vous mentionner beaucoup de choses. J'ai créé une association de défense des animaux, etc. Donc finalement, c'est à côté de ma préoccupation pour l'individu et pour qu'il essaye de trouver son épanouissement, qu'il essaye d'être heureux. Je m'intéresse évidemment à la planète, c'est-à-dire parce qu'un individu aura du mal à être heureux dans une planète épouvantable où on peut pas vivre ensemble, où on détruit les écosystèmes, où on se comporte mal vis-à-vis du vivant. C'est pour ça que les deux vont ensemble, je dirais, l'individu et le collectif. Alors cet ouvrage, effectivement, c'est un peu une synthèse de tout ce que j'avais à dire sur ce collectif, sur comment essayer d'avoir une meilleure relation avec les autres vivants, avec la planète, et donc d'avoir des comportements qui soient plus vertueux, plus responsables.
Quel est le lien que vous établissez, enfin vous venez de le dire, mais entre aujourd'hui, avec tout ce qui nous est arrivé là dans les mois qui se sont écoulés, voire l'année qui s'est écoulée, quel rapport vous situez le lien entre spiritualité et écologie aujourd'hui?
Ben en fait, je pense que la plupart, je suis certain, puisque ça a été prouvé scientifiquement, que la grande majorité des épidémies sont zoonoses, c'est-à-dire sont liées à des animaux qui ont été chassés de leur habitat naturel, qui rentrent en contact avec les humains qui transmettent des nouveaux virus, 70% depuis 30 ans. Ouais. On le sait pour le sida, le SRAS, c'est probablement le Covid, même s'il y a encore un doute. De la même manière, on sait que la fonte des glaciers, du permafrost, etc., va libérer des nouveaux virus. Donc, on sait très bien qu'il y a un lien déjà entre écologie et épidémie. C'est la première chose. Donc, je dirais que la cause la plus profonde de l'épidémie est très probablement liée à la chute de la biodiversité et la déforestation massive. Alors après, le lien entre écologie et spiritualité, c'est que lorsque, pour moi, la spiritualité, c'est véritablement vivre en harmonie avec soi-même, avec les autres, avec le monde. Et donc, lorsqu'on ne respecte pas soi-même, les autres ou le monde, eh bien, on le paye. C'est-à-dire qu'il y a on crée de la violence, on crée de la disharmonie, on crée du chaos, on crée du désordre, on bouleverse des lois naturelles ou des relations. Et à ce moment-là, il y a effectivement un impact sur notre vie. Et donc, la spiritualité, c'est maintenir le plus possible l'harmonie. Ce qui fait que, je crois qu'un être spirituel, il ne peut être qu'écologique. C'est-à-dire faire tout ce qu'il peut avec, bien sûr, des limites. On peut pas être totalement respectueux de l'environnement. C'est impossible. Sinon, c'est effectivement, on marcherait tous à pied, on n'aurait plus de voiture, on prendrait plus jamais l'avion, on se chaufferait, tous avec des énergies solaires. Et encore, ça a aussi des impacts. Donc, c'est impossible.
J'ai vu un documentaire récemment là-dessus, sur Arte d'ailleurs, sur l'impact des économies de l'énergie renouvelable, en fait, avec des éoliennes qui restent bloquées dans la nature, par terre, en se demandant comment elles vont être recyclées. C'est un truc de fou.
Et même le solaire utilise des matériaux pour les fabriquer, on pollue, etc. Donc, c'est impossible d'être 100% écolo, mais on peut l'être le plus possible. C'est-à-dire, chacun fait des compromis comme il peut, pour essayer d'être le plus possible respectueux de l'environnement et du vivant. Et le vivant, j'entends par là, respecter les animaux, parce que c'est vraiment épouvantable, la manière dont on les traite. Donc, manger le moins de viande possible, par exemple, et surtout pas de viande issue de l'élevage industriel intensif. C'est bon pour la planète et c'est bon pour les animaux et c'est bon pour notre santé. Donc, c'est totalement vertueux.
Frédéric, moi, vous me sidérez par votre profusion d'activités, d'actualités, parce que vous faites énormément de choses. Alors, je vous poserai peut-être la question sur un axe un peu plus personnel pour savoir comment vous faites. Mais d'abord, j'ai quand même envie de vous parler une série documentaire, excusez-moi, pour Arte, je crois, qui aborde le sacré. Est-ce que vous pourriez nous en parler un tout petit peu plus? Parce que j'ai vu uniquement le teaser, enfin en tout cas la bande-annonce. Et donc c'est un grand, grand voyage hein, qui va de l'Australie à l'Éthiopie, en passant par le Pérou, le Japon, la Turquie, le Guatemala, les États-Unis. Enfin, vous faites un tour du monde incroyable. Enfin, peut-être pas un tour du monde entier, mais en tout cas assez large. Moi, personnellement, la bande-annonce m'a bluffé. Est-ce que vous pouvez nous en parler déjà sur la thématique et de quoi ça parle?
Oui, et d'abord, je vais commencer par faire un lien avec ce que je viens de dire. C'est qu'effectivement, ouais. J'ai fait beaucoup de voyages qui n'est pas bon du tout au niveau écologique. non, mais c'est vrai. J'ai fait tour du monde en avion. Alors voilà, j'y ai beaucoup réfléchi avant d'accepter ce projet, parce que ça m'a amené à rencontrer des cultures passionnantes, des gens, des magnifiques dans le monde entier, surtout dans des endroits, j'étais en Amazonie, en Éthiopie, enfin dans des endroits très inaccessibles. Et je l'ai fait parce que je me suis dit, je le fais pas pour mon plaisir. C'est-à-dire, je fais pas ça pour aller me dorer la pilule au soleil sur l'île Maurice, ça je le fais plus. Prendre l'avion pour ça, je le fais plus. Mais prendre l'avion pour filmer des cultures qui sont des fois en train de disparaître. Par exemple, on a filmé les aborigènes en Australie. C'est une culture qui est en train de disparaître. On a filmé des chamans péruviens dans des endroits incroyables et tout. Et faire découvrir ça aux gens qui peuvent pas voyager ou qui veulent pas voyager pour des bonnes raisons, je pense que ça avait du sens. Voilà. Yeah. Alors maintenant, le projet, en fait, c'est... vous savez, je distingue le sacré de la religion. Pour moi, la religion, c'est collectif. Ce sont des cultures qui portent des croyances et des rituels collectifs. Et le sacré, c'est pour moi l'expression première en fait de la religiosité, c'est-à-dire le sentiment d'émerveillement et de mystère que ressent l'individu devant la beauté du monde et le mystère de la vie. Et je pense qu'on a tous fait des expériences où on est émerveillé par la beauté de la vie, par la beauté du monde, et puis on se dit, mais pourquoi on est sur Terre? C'est quoi la vie? Le mystère de la vie, en fait, c'est une énigme. Mmh. Et c'est ce que, de manière anthropologique, on appelle le sentiment du sacré. Et du coup, j'ai voulu rencontrer des gens qui font cette expérience, qui vivent ce sentiment dans toutes les cultures. Alors, il y a à la fois des gens qui sont dans des traditions religieuses, qu'on rencontre par exemple des moines zen qui nous disent comment ils vivent ce sentiment du sacré, qu'on rencontre des chamans, etc. Ils sont dans des cultures qui sont marquées par une religiosité, mais il y a aussi des gens qui sont pas du tout dans la religiosité. On a filmé des gens sur les chemins de Compostelle qui marchent pour se trouver eux-mêmes. On a filmé Guillaume Néry qui fait de l'apnée, qui est champion du monde de descente en profondeur sans oxygène et qui nous explique que pour lui, c'est une expérience spirituelle absolument incroyable. On a filmé Jon Kabat-Zinn et des gens qui font de la méditation de pleine conscience. Des gens qui ont des expériences très diverses d'une forme de quête différente du sacré. Et c'est pour ça que j'ai voulu ramener ces films. Donc, on va faire en fait 5 films d'une heure qui vont être diffusés sur Arte au printemps. Mmh. Et j'en ai fait un livre de photos parce que j'ai photographié tous ces gens merveilleux que j'ai rencontrés et j'ai fait un récit de voyage. Et le livre a été publié. Il s'appelle Les Chemins du Sacré. Et donc, c'est un beau livre de photos et un récit de voyage.
Et je vais m'empresser de l'acheter parce que c'est une merveille. J'adore. Moi qui ne peux pas voyager actuellement, ça me fait voyager, donc ah oui. Elle peut avoir une sensibilité plus marquée que pour d'autres. J'ai lu dans une interview récente, alors excusez-moi, je passe un peu du coq à l'âne, mais là j'en viens à un aspect un peu plus personnel. J'ai lu une interview de vous récemment qui m'a beaucoup marquée. Vous parlez de l'injonction paradoxale dans laquelle vous avez été un peu élevée. Et il y a une phrase qui m'a marquée. Cette injonction serait de dire « Sois quelqu'un d'important, mais ne me dépasse pas », en sachant que vous aviez aussi également une mère qui, a priori, n'était pas forcément très tendre, ou en tout cas, comme on peut, selon l'acception, on va dire actuelle. Qu'est-ce que ça a causé chez vous et comment vous vous en êtes sorti, entre guillemets? Et surtout, est-ce que finalement vous êtes reconnaissant de ce parcours qui n'aurait peut-être pas fait de vous l'homme que vous êtes aujourd'hui?
C'est une très bonne question. Parce qu'effectivement, je me considère comme quelqu'un de résilient, hein, au sens où l'entend Boris Cyrulnik, c'est-à-dire que j'ai eu des difficultés dans la petite enfance et un chaos intérieur qui m'a été un moteur pour essayer de chercher un sens à ma vie et de me reconstruire. Mmh. Et c'est grâce à cette reconstruction, effectivement, que je suis devenu ce que je suis venu. Ce qui fait que, bon, c'est vrai que j'ai eu un père très violent, qui était quelqu'un d'autoritaire et qui m'a donné cette injonction, soit quelqu'un d'important, mais surtout ne me dépasse pas. Alors ça, il le disait pas consciemment, mais c'était dit inconsciemment et je me suis tiré une balle dans le pied pendant des années avant d'accepter de réussir dans la vie. Et puis, j'avais une mère qui avait reçu une éducation catholique très stricte et qui, on lui avait dit, faut surtout pas toucher tes enfants, faut pas leur dire que tu les aimes, etc. Tu vas les rendre orgueilleux, tu vas développer leur sensualité. Ce qui fait qu'on a une mère très, très absente au niveau de l'expression physique et ça m'a donné une grande insécurité intérieure. Et j'ai dépassé tout ça parce que j'ai fait de la psychothérapie. Je fais des années de psychanalyse, de gestalt thérapie, du rebirth, c'est-à-dire des thérapies émotionnelles qui m'ont permis de guérir non pas simplement dans ma tête, mais aussi dans mon corps, dans mes émotions. J'ai pratiqué la méditation depuis l'âge de 20 ans, j'ai une quête spirituelle qui m'a beaucoup soutenu. Et donc, je dirais, tout ce travail intérieur m'a construit. Bien sûr. Si j'ai pu écrire des livres sur le bonheur et sur la joie, c'est parce que je suis quelqu'un de malheureux qui suis devenu heureux. Je suis quelqu'un de triste qui suis devenu joyeux. Donc, c'est mon parcours que je raconte. Et donc, finalement, je dis merci à la vie d'avoir eu ses parents. Parce que si j'avais pas eu cette famille-là, je ne serais pas qui je suis. Et pour le dire très simplement, j'adore ma vie aujourd'hui. Évidemment, ça a été un parcours long. Mais je ne regrette rien. Et comme dit Nietzsche, dans le Gai Savoir, s'il fallait tout recommencer à zéro, je serais prêt à le faire. Parce que finalement, ça valait la peine. Voilà. Et donc, je dis ça parce que c'est un message d'espoir pour beaucoup de gens qui ont un parcours chaotique. Alors, il y a des choses bien pires. Il y a des gens qui ont été violés dans l'enfance, c'est pas mon cas. Il y a des gens qui ont été battus de manière extrêmement violente. J'ai reçu beaucoup de coups, mais c'était pas non plus de la violence extrême. Donc, il y a eu bien pire. Mais je dis vraiment à tous ceux qui nous écoutent, si vous avez un parcours chaotique, dites-vous que ça peut être justement un tremplin pour essayer de travailler sur soi, de grandir, et puis il faut demander de l'aide aux autres. C'est-à-dire il faut à la fois se prendre en charge, il faut aussi, j'ai eu beaucoup de soutien, je vous ai dit, par les thérapies, etc. Ouais. Et donc, c'est un chemin de reconstruction.
Et il n'y a plus de rechute après ? Ma question, c'est, vu que vous avez dit, j'ai mis beaucoup de temps à accepter de réussir dans la vie, mais quand on dit beaucoup de temps, c'est pas non plus, ça vous arrive pas à 77 ans non plus. Mais ce que je veux dire,
ça m'arrive à 40 ans. J'ai commencé. Ouais. C'est à 40 ans vraiment que j'ai accepté de dépasser mon père entre guillemets, que les thérapies ont porté leurs fruits. Donc j'ai eu quand même 40 années chaotiques. Mais avec des hauts débats, c'est-à-dire que tout n'était pas malheureux. J'ai eu des moments très bien joyeux, sûr. Puis des moments très tristes. Mais je dirais que je suis arrivé à une stabilité émotionnelle et puis à m'épanouir professionnellement à partir de 40 ans.
D'accord. Il n'y a pas de rechute, c'est-à-dire que quand on a une sorte de coussin molletonné autour de soi pour éviter de redescendre trop bas moralement, il n'y a pas de rechute, il n'y a pas de... C'est la méditation permanente, c'est des choses comme ça qui vous empêchent en fait de rechuter.
J'ai pas un coussin molletonné autour de moi, justement, j'ai construit une stabilité, une force intérieure. Et donc cette force intérieure et cette stabilité émotionnelle fait que j'ai de la distance par rapport aux choses et que quand des choses me perturbent, j'ai eu par exemple une compagne qui est décédée brutalement, j'ai eu des échecs, j'ai eu des choses qui m'ont perturbé. Ça ne dure pas longtemps, je reste dans une distance qui fait que je ne m'embarque pas dans mes peurs, dans mes tristesses. Il y a quelque chose qui est là, par exemple la tristesse, elle peut être là, mais la joie est toujours là. Et la sérénité ne m'a jamais quitté depuis presque 20 ans. Ce qui fait que je traverse les épreuves de la vie tout à fait autrement que par le passé. Et donc, c'est ça que j'essaie de transmettre dans mes livres, c'est comment arriver à trouver une force intérieure et ne pas être ballotté en permanence par les événements de la vie. Parce que sinon, dans la vie, il y a toujours des hauts et des bas. Mmh. Je suis pas plus épargné que les autres par la vie. J'ai aussi plein d'événements perturbateurs, des difficultés matérielles par moment, des problèmes relationnels, mais je le vis autrement. Et donc, ce qui a changé, c'est pas ma vie extérieure, ce qui a changé surtout, c'est ma vie intérieure, c'est-à-dire ma capacité de réagir face aux événements de la vie n'est plus la même que par le passé. Et je ne me laisse plus écrouler, je ne me laisse plus longtemps dans la tristesse, je ne me laisse plus partir dans l'angoisse, c'est fini, si vous voulez. Donc, du coup, j'ai vraiment changé intérieurement.
Et du coup, est-ce que ce serait ça qui vous permet de faire autant de choses ? Vous voyez, je reviens à la première question que je vous posais. À savoir cette profusion, cette hyper-actualité, enfin pas hyper-actualité parce que le terme n'est pas beau, mais le fait d'entreprendre en fait beaucoup de projets parallèles, de faire beaucoup de choses, est-ce que c'est cette super-stabilité intérieure qui vous permet justement de faire tout ça ?
Certainement. Bon, je suis un actif. Hein, je suis. j'ai toujours été actif. J'ai toujours. Je suis un actif. Mais en même temps, je pense qu'effectivement, je suis beaucoup plus depuis que j'ai trouvé cette stabilité intérieure, puisque je perds plus beaucoup d'énergie à essayer de résoudre mes problèmes émotionnels, si vous voulez. Et donc, du coup, toute mon énergie est concentrée vers effectivement la projection vers le monde, c'est-à-dire la transmission. C'est pour ça qu'à la fois, je peux écrire beaucoup de livres, je suis très créatif, je soutiens plein d'associations, j'ai créé aussi une association, une fondation qui s'appelle SEVE, qui veut dire savoir être
les bons sens. Ça m'intéresse beaucoup, ça.
Donc, ça me prend beaucoup de temps, j'y mets beaucoup d'énergie et en même temps, j'arrive à faire beaucoup de choses en peu de temps. Donc, effectivement, je crois que, aujourd'hui, toute mon énergie est concentrée sur l'action, parce que j'ai plus besoin de la mettre pour essayer de trouver un équilibre intérieur.
J'ai pas forcément envie de parler du sujet macro économique sur Covid, confinement, crise, etc. Mais plutôt d'un point de vue personnel, quel est l'homme que vous étiez avant le confinement et quel est l'homme que vous êtes post-confinement, même si on est toujours confiné, mais un peu moins.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Je parle du vraiment premier confinement.
Rien n'a changé pour moi. Ça ne m'a pas du tout changé, ça ne m'a pas du tout perturbé. Après, j'ai beaucoup de chance. Hein. Je fais partie de ces privilégiés. J'ai pu me confiner dans mon chalet en Haute-Savoie, en pleine nature. J'ai passé donc 2 mois ce printemps, 1 mois là au mois de novembre. Et honnêtement, c'est très agréable. J'avais plus de temps justement, j'ai dû arrêter toutes mes conférences, séminaires, voyages à travers le monde. Et du coup, j'ai eu plus de temps pour méditer, contempler la nature, faire des petites promenades, lire, etc. Et ça m'a fait beaucoup de bien. Donc pour moi, je peux pas dire que ça a bouleversé ma vie du tout, mais ça m'a fait ralentir et j'en ai bien profité. Mais encore une fois, j'ai été confiné dans d'excellentes conditions.
Justement, on en parlait là juste à l'instant. Vous avez donc cofondé, je ne sais pas, l'association SEVE, S-E-V-E, en 2016, si mes souvenirs sont bons, je crois.
Tout à fait. Cofondé.
Ouais. Qui propose des ateliers de philosophie et de méditation dans les écoles en France et dans les pays francophones. Est-ce que vous pensez pas, en tout cas, moi, j'aimerais bien que ça arrive, qu'on pourrait faire en sorte d'élever, on va dire, la méditation, la philosophie, au même niveau que les mathématiques ou que les sciences ou je ne sais quoi. Mais c'est-à-dire que je pense qu'il y aurait peut-être un peu moins, et là c'est une question ouverte, mais il y aurait peut-être moins de bazar si ces deux disciplines rentraient finalement dans la norme de l'éducation, non ?
Ah bah Estelle, que non pas que Dieu, mais que le ministre de l'Éducation vous entende. Évidemment. Je milite pour ça depuis des années, parce que je crois que, alors là, je vais vous répondre en m'appuyant sur Montaigne, qui nous disait que l'éducation ne doit pas être qu'une transmission des savoirs. Ça doit être aussi un lieu dans lequel l'enfant apprend à vivre. Et on n'apprend pas aux enfants à vivre, on leur apprend à devenir, comme vous dites, à compter, à lire, à écrire, ce qui est très bien. C'est très important de savoir lire, compter, écrire, connaître l'histoire, la géographie, c'est très important. Mais il y a quelque chose d'aussi important qu'on ne fait pas du tout, c'est effectivement apprendre à l'enfant à gérer ses émotions, à réfléchir au sens de la vie, à comment vivre avec les autres, etc. Donc il y a la vie, ça s'apprend. Et à l'école, ça pourrait être un lieu formidable dans lequel on peut faire ça. Et on le fait à travers l'association SEVE de deux manières. C'est-à-dire qu'on apprend aux enseignants et à des animateurs à faire des ateliers de méditation et de philosophie, puisque c'est deux activités qui rendent l'enfant autonome. C'est-à-dire qu'on ne transmet pas à l'enfant quelque chose de plus, on lui apprend pas un savoir en plus, on lui apprend à penser par lui-même, la philosophie, c'est-à-dire à exercer son jugement, à exercer son discernement et on lui apprend à mieux gérer son émotion à travers la méditation. Et donc, ce sont des outils, c'est comme si on apprenait à pêcher, vous voyez, c'est quelqu'un qui va devenir autonome. Et donc, il le fait chez lui, il continue à la maison, à discuter avec ses parents, sa famille, à faire de la méditation chez lui, et les enfants nous disent, quand mon petit frère m'énerve, au lieu d'aller lui casser la figure, je vais méditer dans ma chambre, ça va beaucoup mieux. Enfin, on voit à quel point ça les autonomise, et ça leur permet de grandir en humanité, d'être plus serein, et puis d'apprendre à écouter les autres, à débattre et à pas être dans la violence qu'on voit de se développer de plus en plus, où les enfants, dès qu'ils sont pas d'accord, ils se cassent la figure, quoi. C'est vraiment incroyable. Donc, la philosophie, ça leur apprend à débattre, à s'écouter, à se respecter.
Ouais. D'autant que, peut-être que si on avait un peu plus de spiritualité au plus jeune âge, on aurait moins besoin de religieux au sens premier du terme, hein. J'ai rien contre les religions, mais j'essaie juste de clarifier les deux notions, spiritualité et religion. J'ai un peu le sentiment que le monde est devenu, je peux me tromper, mais que le monde est devenu bizarrement très religieux. Est-ce que vous pensez que c'est par manque de spiritualité? Est-ce que c'est là, on l'a vécu récemment, malheureusement, avec un assassinat atroce, mais voilà, moi, c'est ce lien entre l'école, la spiritualité, m'affecte beaucoup, parce que je me dis qu'on passe à côté de train entier en fait à l'école, et que qu'on en paye. Enfin, ça fait longtemps qu'on passe à côté de train et qu'on en paye les conséquences peut-être un peu aujourd'hui, non?
Mais tout à fait. Alors, je dirais que les ateliers philo, déjà, peuvent permettre de lutter contre toute forme d'intégrisme et de radicalisation religieuse. Parce que les enfants apprennent à réfléchir, et du coup, ils font des distinctions très importantes entre croire et savoir, par exemple. Parce que tous les intégrismes reposent sur la conviction que les croyances, ce sont des certitudes aussi valables, voire plus que la science. Donc, il faut apprendre qu'une croyance est subjective. Pourquoi? Enfin, il y a énormément de choses que les enfants peuvent réfléchir qui relativisent un peu, je dirais, les certitudes dogmatiques des religions. La deuxième chose, c'est que les enfants, ils se posent des questions fondamentales sur le sens de la vie, pourquoi on est sur Terre, etc. Et si on répond pas à ces questions d'un point de vue philosophique, ils vont chercher après, plus tard, adultes, des réponses dans les religions, et des fois les religions les plus extrémistes. Et ils deviennent effectivement, ou ils rentrent dans des sectes, ou ils sont pris dans des vérités, des certitudes qui enfermantent, parce que on a complètement amputé leur âme. C'est-à-dire qu'on n'a pas cherché à répondre aux questions existentielles. Et moi, quand je fais des ateliers philo avec des enfants de 6-7 ans, je leur dis, c'est quoi les questions les plus importantes pour vous? Ils me parlent tous de la vie, de la mort, du bonheur, du sens de la vie, pourquoi on est sur Terre. C'est ça dont ils veulent parler. Alors, je dis pas qu'on va leur apporter des réponses en philosophie, mais on va leur permettre d'exprimer ces inquiétudes existentielles et donc d'exprimer leurs ressentis, leurs angoisses, etc. Mais ça leur fait énormément de bien. Et la philosophie, c'est déjà une forme de spiritualité, c'est-à-dire qu'on travaille sur l'esprit, sur la vie intérieure, sur le sens de la vie, et c'est donc une expression de l'âme humaine qui a besoin de s'exprimer. Et comme disait le grand psychanalyste Jung, on a amputé l'homme moderne de son âme, c'est-à-dire de son intériorité et de ses questions existentielles. Il faut absolument les traiter à l'école.
Selon vous, c'est quoi la définition du succès?
Je vous poserai la question un peu autrement. Je dirais, c'est quoi réussir sa vie? Et je dirais que c'est la différence entre réussir dans la vie et réussir sa vie. Réussir dans la vie, c'est le succès tel qu'on l'entend socialement. C'est-à-dire réussir dans la vie, c'est avoir un bon métier, être reconnu socialement, bien gagner sa vie, avoir une maison, une voiture, etc. Ça, c'est réussir dans la vie. Réussir sa vie, pour moi, et c'est là le vrai succès, c'est tout simplement grandir en humanité, c'est-à-dire avoir accompli le meilleur qu'on a en nous. Vous savez, on a tous en nous des choses négatives, à la fois des peurs, des angoisses, des égoïsmes, de la malveillance, des jalousies. Et puis, on a des choses très positives. On a de la bonté, on a de la bienveillance, on a de l'intelligence, on a une soif de connaissance, on a tout ça. Qu'est-ce qu'on va nourrir? Qu'est-ce qu'on va cultiver dans notre vie? Et il y a un petit conte amérindien que j'aime énormément. C'est un vieil homme qui dit à son petit-fils, il y a deux loups en toi. Il y a un loup méchant, agressif, etc. Puis il y a un loup gentil, positif, lequel il mène un combat à l'intérieur de toi, lequel va gagner? Est-ce que c'est le loup méchant ou le loup bon? Et le petit enfant ne sait pas, et le vieux sage lui dit, celui que tu nourris. Et c'est très important. C'est-à-dire, plus on nourrit le positif en nous, la bienveillance, l'intelligence, le partage, le pardon, etc., plus on grandit en humanité et plus on réussit sa vie. Et réussir sa vie, c'est s'accomplir comme être humain avec tous ses potentialités, si on a des dons artistiques, les développer, si on est fait pour un métier manuel, le réaliser, un métier intellectuel, le faire, etc. C'est réaliser ses potentialités tout en étant utile aux autres et vivre le plus en harmonie possible avec les autres. Et donc, pour moi, c'est ça, réussir sa vie, et c'est ça le vrai succès d'une vie. Pour le dire autrement, Donald Trump a raté sa vie pour moi et Pierre Rabhi l'a réussi. Voilà. Selon mes critères. Hein.
Je conçois tout à fait et je suis d'accord. Qu'est-ce que vous avez comme projet actuellement et qu'est-ce qui vous motive aujourd'hui? À savoir les projections, on en parlait tout à l'heure, mais le fait de se projeter, etc. Quels sont du coup vos projets dont vous pouvez nous parler? Je sais que bon là, vous aviez une actualité très, très dense récemment. Comment vous voyez les choses dans les prochains mois?
Déjà, globalement, si vous voulez, moi, quand je suis arrivé, je vous ai dit, vers 40 ans, j'ai commencé à trouver vraiment un équilibre intérieur. Mmh. Et j'ai eu un succès professionnel très fort jusque vers 50 ans, qui fait que là, je me suis dit, bah, maintenant que j'ai vraiment aussi réussi sur le plan professionnel et que j'ai trouvé un apaisement sur ce plan-là, j'ai eu envie d'être le plus possible utile aux autres. Donc finalement, depuis maintenant presque une dizaine d'années, j'essaye de soutenir des associations, d'en créer, etc. Et c'est ça que j'ai envie de continuer de développer, c'est à continuer d'être le plus possible utile en éclairant les gens, à la fois par des livres, mais aussi par des actions concrètes, hein, et en consacrant du temps et de l'argent à ça. Donc ça, j'ai envie de poursuivre toutes ces actions bénévoles qui sont utiles. Et puis, à côté de ça, bah, j'ai toujours 1000 projets à la fois de télévision, puisque cette série documentaire m'a donné vraiment le goût de la télévision documentaire, mais peut-être aussi de la fiction, d'écrire des livres. J'écris aussi des contes. Là, je suis en train d'écrire un conte philosophique, donc qui va sortir au mois d'avril. Donc ça, c'est mon prochain livre. Et ce conte philosophique sera accompagné aussi d'un jeu de cartes pour enfants, un jeu de sagesse. Et ça va s'appeler « Les contes de l'âme du monde », puisque vous savez, j'avais écrit un livre qui s'appelait « L'âme du monde » il y a 10 ans, qui est un des plus gros succès que j'ai eu, et c'est un livre dans lequel il y avait des contes universels. Et j'ai repris ces contes, et j'ai une amie illustratrice qui a fait 22 cartes, pour que les enfants puissent tirer, grosso modo entre 6 et 12 ans, puissent tirer une carte, et après ça renvoie à un petit livret où il y a un conte et un commentaire philosophique qui permet à l'enfant de réfléchir à une dimension de sa vie, au bonheur, à la bienveillance, etc. C'est-à-dire que la tolérance, enfin tous les grands thèmes de la sagesse philosophique sont présents, et je me dis, comme ça, c'est une manière ludique et pédagogique d'aider aussi les enfants à réfléchir.
Vous êtes très attaché au sujet des enfants.
Oui, alors je n'en ai pas.
Ça vous... enfin, je veux dire, ouais. J'ai élevé les enfants. Vous avez beaucoup d'enfants, mais vous n'en avez pas. Ouais.
J'ai élevé les enfants des autres, voilà. Mais j'en ai pas moi-même. Ouais. Je pense qu'avec le chaos que j'ai connu dans ma petite enfance, j'ai pas envie de reproduire ça. Donc c'est vrai que ça m'a freiné dans le fait d'avoir des enfants. Et puis comme j'ai eu des compagnes qui avaient des enfants merveilleux, bah je les ai élevés. Et puis avec tous ces enfants qui font des ateliers philo et qui lisent mes livres et tout, bah j'ai l'impression quand même d'avoir plein d'enfants. En fait, ce qui compte, c'est de transmettre. En fait, voilà.
Bien sûr. En parlant de transmission, moi j'ai vu quelque chose qui m'intéresse, qui m'interpelle, c'est que vous avez comme vous avez étudié un peu la Kabbale et les lettres hébraïques, enfin en tout cas les cours de symbolique autour des lettres hébraïques, etc. Mais vous pouvez nous en dire 2-3 mots ou pas, parce que pour moi c'est un truc qui est très mystérieux pour moi, mais qui m'attire beaucoup en même temps. Je sais que c'est difficile à résumer.
J'ai fait ça très jeune. Je pense que quand j'ai eu 18 ans, j'ai rencontré un kabbaliste qui m'a initié. Pendant un an, j'ai pris des cours de symbolique sur les lettres hébraïques. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que chaque lettre, c'est un monde. Hein, chaque lettre est tout un symbole qui renvoie à beaucoup de choses. Mais ça a été pour moi l'initiation à l'univers symbolique. L'univers symbolique, vous savez, un symbole, symbolum, le mot grec, ça veut dire qu'il y a deux parties de quelque chose qui sont qu'on va rassembler. Et donc le symbole, c'est ce qui permet de relier c'est un lien entre le visible et l'invisible. Et donc à travers un support, on voit ce qu'il nous dit d'invisible ou ce qu'il nous dit d'autre chose. Et donc la pensée symbolique, c'est faire un lien entre deux choses qui sont séparées mais qui ont un lien. Alors on va dire un lien symbolique, un lien analogique, voilà. Et donc en fait, la pensée symbolique est passionnante parce que ça nous permet de développer une intelligence, notre imagination, une intelligence symbolique et pas uniquement logique. Et toute la philosophie de Jung, et ce grand psychanalyste que j'aime beaucoup, est entièrement marquée par la symbolique. On retrouve de la symbolique partout, hein, dans tous les domaines. Il n'y a pas que la religion ou la spiritualité qui développe la symbolique. Les symboles sont présents partout, même y compris dans l'univers marchand. Bien sûr, tout est symbole, si vous voulez, mais il faut savoir les décrypter, les comprendre, les relier, en voir le sens, et c'est pour ça que c'est passionnant, en fait. Voilà, donc la Kabbale a été pour moi la porte d'entrée vers l'univers symbolique.
D'accord. Toujours pareil, excusez-moi du coq à l'âne, mais concernant le monde d'après, si je vous dis la phrase, si je dis la phrase à l'optimiste lucide que vous êtes, parce que vous n'êtes pas optimiste tout court, vous êtes lucide, comment vous réagissez si je vous dis que les crises accélèrent les mutations suite à ce qu'on est en train de vivre? Est-ce que vous sentez vraiment qu'il va y avoir un gros changement?
Alors, je suis convaincu comme vous que les crises accélèrent les mutations. C'est-à-dire, sans crise, il n'y a pas de mutation. Et effectivement, on a besoin dans notre monde de mutations. C'est-à-dire que le monde qui s'est développé depuis 60 ans a eu beaucoup d'avantages. C'est évident que le confort matériel, le progrès de la médecine, la longévité de la vie, etc., ce sont des gros avantages, les progrès de la démocratie. Enfin, tout ça est indéniable. Mais ça s'est accompagné d'énormes problèmes qui est à la fois la pression qu'on exerce sur la planète qui est intenable à long terme, donc il faut changer ça. Et puis, il y a de plus en plus d'égoïsme, d'individualisme, etc. Et beaucoup de gens sont très mal dans leur peau. Et donc, il faut une transformation de notre société sur ces deux plans. Au moins. Et là-dessus, je pense que sans crise, on le fait pas. C'est parce que dans notre vie, on traverse une épreuve de vie qu'on va changer. Beaucoup de gens qui sont tombés malades vous disent, grâce à cette maladie, si je prends du recul, c'est comme ça que j'ai évolué, que mon cœur s'est ouvert, que j'étais moins égoïste, j'ai regardé le monde autrement. Si on n'est pas bousculé dans notre zone de confort, si on sort pas de notre zone de confort, si on n'est pas bousculé dans nos habitudes, on ne change pas. Et l'humanité ne changera pas tant qu'elle sera pas violemment bousculée par la nature, par la vie, par les crises à la fois économiques, écologiques, sanitaires qu'on vit. C'est triste à dire, hein, parce que ce serait merveilleux si on était tous capables, responsables, tous sages, éveillés, et de se dire, maintenant, on va vivre de manière responsable, on va partager, etc. Mais on le fait pas. Et du coup, malheureusement, on attend que la vie nous bouscule pour le faire. Alors, je pense que oui, on est tous bousculés, d'ailleurs on voit beaucoup de gens vont très mal en ce moment. Et donc il faut faire de ce mal-être, de cet inconfort, le voir comme une opportunité à la fois individuelle et collective de changer. Vous savez, en chinois, le mot crise, c'est deux idéogrammes. L'un veut dire danger, l'autre veut dire opportunité. Et donc dans toute crise, il y a un danger. Voilà, il y a un danger de mourir, il y a un danger de perdre économiquement beaucoup d'argent, il y a un danger de perdre son job et tout. Mais il y a aussi une opportunité qui nous est donnée de voir les choses autrement et peut-être de changer de mode de vie, de changer d'activité, d'aller vivre autrement. Moi, je vois par exemple ma petite sœur, elle a vécu longtemps à Paris, elle n'était pas heureuse, et puis elle a changé de boulot et maintenant elle fait des plantes médicinales dans la Drôme. Elle me dit, je gagne 10 fois moins d'argent, je suis 10 fois plus heureuse. Ouais. Donc on peut tous utiliser ces moments de crise pour changer quelque chose dans nos vies, et c'est ça que j'espère qu'à un niveau individuel et collectif, on va pouvoir faire.
Du coup, quel message? Alors, vous venez d'en passer un fort, mais particulièrement en ce moment, si vous aviez un message à passer, ce serait lequel?
Je dirais aux gens d'avoir confiance. Parce que beaucoup de gens sont désespérés, sont très pessimistes, etc. Et je dirais qu'il faut avoir confiance en soi. Confiance en soi pour savoir qu'on a la force, chaque individu peut trouver en lui la force de grandir, de rebondir, de s'en sortir, et avoir confiance dans la vie. Parce que lorsqu'on a vraiment envie, qu'on est très déterminé pour aller vers un progrès, vers un mieux, eh bien la vie nous apporte quelque chose. Ouais. Moi, je l'ai expérimenté, j'ai vu plein de gens autour de moi qui ont vraiment pris des risques, qui ont cru en eux, qui ont cru en leur projet, et ils ont été très souvent soutenus par la vie. Et donc, je dirais, voilà, avoir confiance en soi, avoir confiance dans la vie, et savoir que toutes ces crises peuvent produire du mieux. Et c'est parce qu'on aura confiance en soi et dans la vie que, je pense, on pourra avancer et s'en sortir le mieux possible.
3 questions encore assez rapides et après je vous libère, promis. Votre vision de la France, c'est toujours les mêmes questions que je pose en fin d'interview à mes invités, mais votre vision de la France au sens le plus large possible, le premier truc qui vous vient à l'esprit sur notre cher pays.
Eh ben, C'est un paradoxe, en fait. C'est qu'à la fois, la France est un pays où on a un esprit critique, où on est capable de réfléchir, de poser des bonnes questions, etc. Ce qui est très positif, hein. Parce que je connais d'autres pays où il y a beaucoup moins d'esprit critique, les gens gobent tout, voilà, tout ce qu'on leur sert. Et là, il y a quand même une réflexion chez les Français qui est très positive. Après, le négatif de ça, c'est qu'on critique tout. C'est-à-dire qu'on ne voit plus le positif. Et on finit par ne voir que ce qui va pas. Et donc, le problème, c'est qu'on vit dans un pays merveilleux, qui a des opportunités incroyables, qui est très beau au niveau des paysages, qui a des cultures culinaires, musicales, etc. Enfin, à tout niveau, on a la chance d'être en France, un pays démocratique, un pays dans lequel, globalement, les libertés individuelles sont respectées, même s'il y a évidemment toujours des difficultés. Un pays dans lequel on est soutenu par l'État. Regardez, avec la crise du Covid, quand même, les gens ont été soutenus économiquement, qu'il y a des pays où il n'y a aucun soutien étatique. Donc, c'est quand même un pays formidable, et on a l'impression d'être dans le pire pays du monde. Mmh. Et c'est Sylvain Tesson qui a cette phrase merveilleuse. Il dit « La France est un paradis dont les gens qui le peuplent croient vivre en enfer ». Et c'est tout à fait ça. Mmh. Et donc, quand on va à l'étranger, les gens sont plutôt contents de leur vie, de leur sort, etc. Puis on arrive en France, tout va mal, c'est la catastrophe. Donc, je dirais aux Français, vraiment, regardez la chance que vous avez et ne vous plaignez pas tout le temps. Mmh. Essayez aussi de vous prendre en main, de revoir le positif. Quand vous êtes au chômage, c'est dur, mais vous avez des ACEDIC, des aides. Mmh. Quand vous êtes malade, c'est dur, mais il y a un soutien, alors qu'il y a des pays où il n'y a pas de sécurité sociale. Voyez le positif et essayez effectivement de faire de votre vie quelque chose en étant responsable aussi de votre vie, puisqu'on a aussi tendance à tout attendre. On se plaint des autres, on attend tout aussi des autres et de l'État. Et donc là, je pense qu'il faut arriver vraiment à sortir de cette mentalité victimaire pour se responsabiliser. Mmh. Tout à fait. Mmh. Et c'est dommage, parce que à côté de ça, j'adore la France et je trouve qu'on a beaucoup de chance. Enfin, moi, j'aime beaucoup vivre en France, mais cet état d'esprit est très lourd, c'est très pesant. Et quand on voyage, qu'on va à l'étranger, d'un coup, on s'aperçoit que les gens sont beaucoup plus responsables, se plaignent beaucoup moins, etc. Et c'est plus léger, c'est plus facile à vivre. Puis on revient en France et tout de suite, on voit que tout est lourd. Et donc, c'est un état d'esprit, si vous voulez, qu'il faut, à mon avis, essayer de faire évoluer. Parce que c'est dommage de vivre dans un si beau pays avec autant de chances, autant d'opportunités. Et puis, alors, il y a plein de choses à changer, évidemment. On parlait de l'État, il y a beaucoup trop de lourdeur administrative, il y a beaucoup trop de taxes dans tous les domaines. Enfin, c'est très lourd pour les entrepreneurs, notamment, d'être en France. Donc, il y a plein de choses à réformer en France. On peut tout à fait critiquer certaines choses, mais voyons aussi le positif.
Ouais, je suis entièrement d'accord avec vous. Les deux dernières questions, c'est un coup de gueule et un coup de cœur. Et vous n'êtes pas obligé d'en avoir.
Le coup de gueule, je l'ai eu.
Vous venez de le passer, ouais.
Je viens de le passer. Et le coup de cœur, j'ai envie de dire, je l'ai eu aussi. C'est-à-dire que je trouve que le monde est beau. Je trouve que la France est un pays magnifique. Je trouve qu'il y a tellement de belles choses. Et essayons de voir cette beauté du monde qui nous entoure. Et puis partout, je dirais qu'on peut avoir des petits plaisirs extraordinaires en prenant simplement son thé ou son café le matin, le savourer pleinement, prendre sa douche. Mais quel bonheur de pouvoir se laver. Vous savez, quand on est dans le désert pendant 3 semaines, qu'on ne peut pas se laver, on se dit, mais quelle chance on a d'avoir de l'eau, tout simplement. Enfin, redécouvrir les menus plaisirs du quotidien qui sont gratuits, qui sont là, qui nous sont offerts. Et regarder le soleil si on a la chance de pouvoir être dans la nature ou au moins regarder par sa fenêtre une belle lumière, etc. C'est-à-dire qu'on peut se satisfaire de très petites choses et donc trouver de son bonheur dans les menus plaisirs du quotidien.
Mmh. Magnifique. Frédéric, un grand merci de m'avoir consacré tout ce temps. Je ne sais pas quoi vous souhaiter, mais en tout cas...
Merci, Estelle. J'ai eu beaucoup de plaisir à échanger avec vous. Vous êtes vraiment une très belle personne et j'ai trouvé que c'était très agréable de dialoguer avec vous.
Merci, Frédéric. Merci beaucoup. À très bientôt, j'espère.
Avant de vous quitter, sachez que vous pouvez retrouver toutes les notes du podcast sur le site www.reel.fr. Si vous voulez réagir, me contacter ou me proposer des invités, n'hésitez surtout pas à m'écrire sur Instagram. J'espère sincèrement que cet épisode vous a plu et qu'il vous donnera envie de vous abonner pour recevoir les notifications. Alors je vous dis à très vite pour un prochain épisode.